Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Et oui, bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Et vous le savez, pendant une heure, il est tous les jours mon acolyte dans ce studio. C'est bien sûr le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré aux leucémies. Ces cancers du sang et de la moelle qui sont notamment toujours les plus fréquents chez les moins de 15 ans. Alors heureusement, beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années dans les traitements. On en parlera bien sûr avec des guérisons complètes dans de nombreux cas, mais nous détaillerons aussi les pistes et les enjeux pour améliorer encore les choses dans les années à venir. Et pour parler de tout cela, nous recevrons le professeur Jean-Hugues Dalle. Il est professeur de pédiatrie à l'Université de Paris et président du conseil scientifique de la Société française de lutte contre les cancers et leucémies de l'enfant et de l'adolescent. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des grands oubliés de notre santé, enfin de notre corps en général, nos pieds, comment en finir avec les problèmes de pieds secs, comment les chouchouter. Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout ce qu'il faut savoir. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, vous allez trouver ça un peu curieux peut-être, mais elle nous parlera d'allergies liées bien sûr au rapport sexuel.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Mégane.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, aujourd'hui, je vous contacte parce que je me questionne à propos de ma grand-mère. Elle se plaint constamment d'avoir mal aux reins. Donc aujourd'hui, ma question, ce serait de savoir, est-ce qu'on peut réellement avoir mal aux reins ? Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Alors, pour répondre à cette question, Mégane, on s'est tourné vers un grand spécialiste des reins, bien sûr, le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On écoute.
C'est très simple. Alors, d'abord, le plus souvent, quand on dit qu'on a mal aux reins, c'est pas aux reins qu'on a mal, c'est plutôt à la colonne vertébrale. Il faut rappeler que les reins sont des organes assez haut placés qui se situent de chaque côté de la colonne vertébrale, juste sous la dernière vertèbre. Et très souvent, en fait, les gens, ils vous montrent le bas du dos. Donc, c'est une expression qui est ancienne, qui est mauvaise. Et donc, quand on vous montre le bas du dos, qu'on dit « Ah, j'ai mal au rein », en fait, c'est le rhumatologue qu'il faut aller voir. C'est pas le néphrologue. Les reins sont des organes qui sont très peu douloureux. Ils sont douloureux dans peu de circonstances, essentiellement lorsqu'on a ce qu'on appelle une colique néphrétique, hein, un caillou bloqué, une pierre bloquée dans les voies urinaires. Ça fait très très mal. Tout le monde sait que c'est une douleur extrêmement intense. Et puis, la deuxième circonstance, c'est quand on a une infection au niveau du rein. Pas la cystite. La cystite, c'est une infection au niveau de la vessie. Donc là, on peut avoir mal au rein. Et quand on a une infection au niveau du rein, quand vous palpez derrière, là, tout en haut, ça fait mal.
Voilà, c'était les précisions du professeur Deray au micro de Benjamin Lévesque. Passons tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est Vincent qui nous l'a posée sur notre répondeur. La voilà.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelais pour une question par rapport à un voisin que nous avons qui a été hospitalisé récemment. Et on a appris que c'était pour une angine de la poitrine. Et on se posait la question, est-ce que c'est la même chose qu'une angine de la gorge ou est-ce que c'est plus grave qu'une angine classique qu'on connaît au point justement de finir à l'hôpital? Merci pour votre réponse, bonne journée et à bientôt, au revoir.
Bon, alors Jimmy, je ne suis pas médecin, mais je pense que je peux confirmer que c'est un peu plus grave qu'une angine de gorge, quoique hein, parfois ça peut mal tourner l'angine, on ne sait jamais. Alors Jimmy, très concrètement, une angine de poitrine, c'est quoi? On est d'accord, ça n'a rien à voir avec l'angine de gorge.
Effectivement, hein. On appelle ça aussi l'angor, c'est une maladie cardiaque, une maladie des artères coronaires qui fait que le sang va moins bien circuler à cause de plaques de cholestérol qui vont empêcher l'oxygène d'arriver au cœur, notamment lors des efforts, et ça va se manifester par des symptômes qui peuvent aboutir par la suite vers un véritable infarctus, puisque le propre de l'angine de poitrine, l'angor, eh bien, c'est finalement de venir et de partir. Et puis un jour, il vient, il ne part plus et il fait la crise cardiaque.
D'accord. Et ça peut toucher les gens du jour au lendemain ou est-ce qu'il faut avoir quand même des antécédents cardiaques
cardiovasculaires ? Alors, il y a deux types d'angor. L'angor stable, c'est-à-dire que pour des efforts modérés, vous montez deux étages, vous courez après le bus, vous avez des douleurs, vous vous arrêtez, la douleur part. Et puis, vous avez l'angine instable, l'angor instable, qui fait que désormais, pour quelques pas ou la nuit, vous êtes réveillé. Donc, ça peut survenir brutalement, mais ça survient essentiellement chez les personnes qui vont avoir des facteurs de risque cardiovasculaire, du surpoids, de l'obésité, du diabète, de l'hypertension, voilà, du cholestérol, du tabac, et qui prédispose aux maladies cardiaques.
Et alors, pour ne pas passer à côté, parce que là, vous nous avez fait un petit peu peur, on a compris que c'était bien plus grave que l'angine de gorge. C'est quoi les signes qui doivent nous pousser à consulter? Enfin, on ne peut pas passer à côté, peut-être, si ça fait très mal.
Alors, souvent, ça passe inaperçu, en fait. Il y a ce qu'on appelle une forme d'ischémie silencieuse. C'est-à-dire que dans 3 cas sur 4, on ne sait pas qu'on a fait un angor d'effort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout symptôme à l'effort quel qu'il soit. C'est-à-dire que même si vous avez une espèce de pesanteur au niveau du ventre, une douleur au niveau de l'estomac, en particulier chez les femmes, puisque les femmes n'ont pas les mêmes symptômes en cas d'atteinte cardiaque que les hommes, eh bien, il faut absolument consulter, au moindre doute, appeler le 15. Mais la douleur, typiquement, celle qui est décrite, c'est une douleur au niveau de la poitrine, au milieu, qui forme une barre, qui va serrer, comme si vous aviez un étau, un poids, qui peut irradier au niveau du bras gauche ou de la mâchoire.
Ça ressemble un peu à l'infarctus, dans ce qu'on connaît.
Ça ressemble à l'infarctus, mais dès lors que vous arrêtez l'effort, au bout de deux minutes, ça cesse. Mmh. On a aussi ça chez les malades cardiaques qui ont fait un infarctus. Parfois, ils ont ce genre de douleur. Ils vont prendre de la trinitrine, c'est-à-dire un petit vasodilatateur qui va ouvrir les artères, l'oxygène va mieux passer et la douleur va cesser. Si votre douleur ne cesse pas dans les deux minutes, il est impératif d'appeler le 15 et même si elle cesse, allez voir votre médecin traitant.
C'est quand même une urgence, hein, Jimmy, on est d'accord, on ne reste pas chez soi avec ce type de douleur.
Exactement, comme je l'ai dit, ça peut évoluer vers l'infarctus, donc on consulte immédiatement, on appelle le médecin traitant, on appelle le 15. Le 15 n'est pas surchargé d'appels Covid et on voit encore des malades qui vont négliger leur maladie à cause du Covid.
Donc, il faut qu'on prenne en charge. N'hésitez pas.
Exactement. On prend en charge le Covid correctement, mais aussi tout le reste.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Vincent qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité en studio avec nous pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Jean-Hugues Dahl. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de pédiatrie à l'Université de Paris. Vous êtes également le président du conseil scientifique de la Société française de lutte contre les cancers et leucémies de l'enfant et de l'adolescent. Et donc on va faire un point sur ces sujets-là, sur les leucémies en général et leur prise en charge en France. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, une leucémie d'un point de vue général, on va rentrer dans le détail après. Si on peut donner une définition, c'est quoi ?
Alors très souvent, comme vous l'avez dit, on parle de cancer du sang, alors qu'en fait, le sang ne va être qu'un véhicule. Quand j'en parle moi, aux plus petits, ce que je leur explique, c'est que finalement, le sang, c'est un petit peu comme le boulevard périphérique. C'est-à-dire qu'il y a plein de voitures, en l'occurrence plein de globules, qu'on les voit là, mais on sait tous que ce n'est pas le périphérique qui produit les globules ou qui produit les voitures. Et en l'occurrence, dans le cadre du sang, eh bien, les cellules sanguines sont produites dans la moelle osseuse. C'est à l'intérieur de chacun de nos os. Attention, ça n'est pas la moelle épinière, on parle de la moelle osseuse. Hein, casser un os de poulet, vous allez voir, au milieu, c'est ça la moelle osseuse. Et donc, c'est l'usine qui produit les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, ce qu'on appelle, nous, les éléments figurés du sang.
C'est un super moyen d'expliquer, je trouve. Vous l'expliquez aux enfants, mais continuez à nous expliquer comme aux enfants, on comprend très bien. Merci.
Ben c'est clair, nous sommes de grands enfants, mais on adore ce genre d'explication. Alors, on va rentrer dans le détail après, mais chaque année, ça touche combien de personnes en France ?
Ça touche environ 450 ou 500 enfants ou adolescents de moins de 15 ans, et ça touche probablement 12 à 13 000 adultes. Donc, le nombre d'adultes touchés est plus important que les enfants, mais en proportion, les leucémies sont les cancers les plus fréquents chez les moins de 15 ans, alors que ce sont des cancers beaucoup moins fréquents que d'autres, comme le sein ou la prostate, chez l'adulte.
Et les leucémies, d'un point de vue général, parce qu'on parle ici, dans cette émission, souvent, on a parlé d'autres cancers, est-ce que le cancer du sang, les cancers du sang, sont des choses qui sont en augmentation, stables, en diminution ces dernières années ?
Alors, les leucémies, à proprement parler, donc ces cancers de la moelle hématopoïétique, la moelle osseuse, sont globalement stables. Quelle que soit la tranche d'âge qu'on considère, c'est stable, alors que leurs cousins, les lymphomes, qui se passent dans les ganglions, mais c'est globalement les mêmes cellules qui sont concernées, sont eux plutôt en augmentation, et c'est vrai au niveau mondial.
Donc vous l'avez dit, finalement, ce n'est pas une leucémie, c'est les leucémies. Vous avez parlé de lymphomes. Comment est-ce qu'on fait la différence simplement entre toutes ces maladies ?
Alors, les leucémies sont définies par la présence de cellules malades, qu'on appelle les blastes, au sein de la moelle osseuse. Alors que dans le lymphome, justement, cette atteinte de la moelle osseuse, elle ne va pas systématiquement exister. Elle peut être là, mais de façon beaucoup plus variable, alors que dans les leucémies, de façon générale, ça va être un envahissement globalement massif. En tout cas, au-delà de 20% des cellules sont des cellules toutes identiques, qui sont les cellules qui vont définir, qui vont donner la carte d'identité de la maladie leucémique.
Et là, les leucémies, on reviendra peut-être un peu sur les lymphomes après, mais les leucémies, il y en a combien de types ? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Bon, après, il doit y avoir des sous-types, etc. Mais si on doit schématiser...
Alors, si on schématise, il y a d'abord les leucémies aiguës, qui vont se développer vite, les leucémies chroniques, qui vont se développer beaucoup plus lentement, de façon beaucoup plus torpide.
Donc, deux grandes familles, déjà.
Deux grandes familles. Globalement, pas de leucémie chronique en pédiatrie, des leucémies chroniques, essentiellement chez l'adulte. Et puis, au sein de ces leucémies aiguës comme chroniques, vous allez avoir deux grandes familles de cellules qui peuvent être atteintes, soit les lymphocytes, et on va à ce moment-là parler de leucémie lymphocytaire ou lymphoblastique, et puis toutes les autres cellules, et on va parler de cellules de leucémie myéloïde.
D'accord, donc bon, on peut avoir des leucémies myéloïdes chroniques. Pour les gens, ils ont peut-être dû entendre en parler déjà, c'est les LAL, les LAM, hein, c'est ça?
Exactement. LAL pour leucémie aiguë lymphoblastique, LAM, LAM, pour leucémie aiguë myéloïde. Et puis vous allez le décliner en chronique. Donc leucémie myéloïde chronique, LMC, leucémie lymphocytaire chronique, LLC.
Donc c'est vrai, quand on parle de cancer du sang, des leucémies, on a l'impression qu'on va essayer de chercher un nodule, une masse, mais finalement on n'a rien, ça circule dans le sang. Et pour le lymphome, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'on peut découvrir des grosses choses quelque part dans le système?
Alors vous avez tout à fait raison, effectivement, le lymphome c'est plutôt de la boule, c'est plutôt une tumeur. Là où la leucémie c'est beaucoup plus difficile à percevoir,
elle
à imaginer,
parce
qu'elle est partout dans toute la moelle. Mmh. Effectivement, ça c'est côté très particulier. Mais comme je le disais, comme ce sont des maladies cousines, on peut avoir parfois aussi ce qu'on appelle des organomégalies, un gros foie, une grosse rate, des ganglions dans les leucémies. Et c'est effectivement l'envahissement de la moelle qui va permettre de dire ben, on est plutôt dans une leucémie ou plutôt dans un lymphome.
Vous disiez masse, tumeur dans le lymphome, ils vont être à quel endroit ces masses? Parce que lymphome, vous avez dit ganglions, on en a un peu partout des ganglions, donc les masses, elles peuvent être où?
Eh bien partout. C'est
dans le ventre,
dans le thorax, sous les bras, dans les plis de laine, parfois dans les plis des genoux. Parfois même, il y a des lymphomes cérébraux, il y a des lymphomes oculaires. Vraiment, les lymphomes, parce que finalement, ce sont les cellules cousines du sang, le sang circulant partout, la lymphe circule partout. Et donc, ce sont des maladies qu'on peut retrouver absolument partout dans l'organisme.
Autant, dans la tête des gens, c'est assez simple de comprendre, et parfois, il y a des subtilités. Cancer du poumon, c'est lié au tabac. Vous allez avoir un infarctus si vous consommez trop d'alcool. Mais est-ce qu'on a une explication au fait que des enfants fassent des leucémies? Est-ce qu'on sait pourquoi certains vont en faire?
Non, malheureusement, mais c'est vrai, de la population pédiatrique comme de la population adulte, on ne sait pas à l'heure actuelle pourquoi un individu va faire une leucémie. Ça reste quelque chose de complètement mystérieux. Il y a encore 10 ou 15 ans, on disait qu'il n'existe pas de
caractère
génétique à la leucémie. Bon, maintenant, on se dit qu'il y a peut-être un petit pourcentage de leucémies qui sont liées.
Vous avez des familles de gens qui ont des
leucémies?
Oui,
alors ça se compte sur les doigts d'une main, c'est extrêmement rare, mais on commence effectivement à décrire des syndromes de prédisposition qui favorisent les leucémies et souvent d'autres cancers d'ailleurs.
Et vous en avez, on a autant de leucémies qu'il y a 30 ans par exemple? Est-ce que c'est en augmentation en disant est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans l'environnement qui pourrait nous rendre malade ou ça reste stable? Et dans ces cas-là, c'est peut-être du côté de la génétique ou je ne sais pas.
Non, c'est parfaitement stable. Alors de temps en temps, on a des alertes. Comme ça, on a l'impression qu'il y a ce qu'on appelle nous un cluster. Alors, c'est
les gens connaissent ce terme-là.
On a bien compris.
Ouais, ça va.
Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu des études sur ce qui semblait être un cluster, eh bien, il a été démontré qu'en fait, non, il ne se passait rien et qu'il n'y avait pas d'endroit où il y avait plus de leucémies ni de période dans le temps où il y a plus de leucémies.
Parce que du coup, c'est culpabilisant pour les parents de se dire j'ai un enfant qui a une leucémie, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour
bien
lui
sûr.
Transmettre éventuellement quelque chose alors qu'ils ne sont pas responsables.
Exactement.
On peut
exactement.
Leur dire qu'ils n'ont rien fait de mal.
Ils ont absolument. Non. Au contraire, ils ont vu que leur enfant n'allait pas bien et ils nous l'ont amené ou ils l'ont amené aux urgences ou ils ont appelé un médecin. Et donc, non, bien sûr que les parents n'y sont jamais pour rien.
Et quand vous parliez des leucémies chroniques, donc plutôt chez les adultes, là, ça veut dire que chronique, nous on parle souvent d'hypertension, de diabète, de maladie un peu pour toute la vie, ça veut dire que là aussi c'est pour toute la vie?
Alors, ce n'est pas pour toute la vie parce que ça reste des maladies graves. Donc, si elles ne sont pas prises en charge, ça va finir par mal se terminer. Mais le temps d'installation, les manifestations vont être effectivement différentes et beaucoup plus lentes, vont s'installer dans le temps. Oui. Mais il y a un moment donné où ça va faire parler de soi.
D'accord. Professeur Dalle, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Jean-Hugues Dalle. Vous êtes professeur de pédiatrie à l'hôpital Robert Debré. Vous êtes également le président du conseil scientifique de la Société française de lutte contre les cancers et les leucémies de l'enfant et de l'adolescent. Alors à présent, on va s'attarder sur le diagnostic de la leucémie. Comment ça se passe en général? Comment on découvre qu'on a un cancer du sang, de la moelle? Un matin, on se réveille, je ne sais pas, on est très malade ou est-ce que c'est quelque chose qui est long, progressif pour se développer? Ça se découvre même peut-être par hasard, je ne sais pas.
Les leucémies aiguës, généralement, vont être bruyantes. Pas toujours le cas, mais le plus souvent, ça va être bruyant. Et en fait, il faut bien imaginer donc notre fameuse usine, la moelle de tout à l'heure, au lieu de produire des petites voitures bien conformes, elle est envahie par des voitures de travers. Et donc, il n'y a plus de place pour les voitures normales. Ce qui veut dire que vos globules normaux ne sont plus là. Et ça va évidemment finir par se voir en périphérie, dans le sang. Et donc, ce sur quoi agit le sang. Donc, il va vous manquer des globules rouges, vous allez pâlir et puis être fatigué, avoir ce qu'on appelle une anémie, une asthénie, une fatigue anormale. Vous essoufflez en montant
les
escaliers.
Attention, parce que là, vous êtes en train de faire peur à beaucoup de monde qui non, des gens sont fatigués
c'est
aujourd'hui.
C'est des choses bruyantes. Vous pouvez manquer de plaquettes. Les plaquettes, ça nous empêche de saigner. Donc, tout d'un coup, alors que ça n'arrivait pas, vous allez saigner en vous brossant les dents ou vous allez avoir des petits points rouges sur la peau qu'on appelle des pétéchies. Éventuellement, mais c'est beaucoup plus rare, avoir du sang dans les urines. Enfin, il va se passer quelque chose du point de vue de ce qu'on appelle l'hémostase. Et puis les globules blancs, qui sont nos soldats qui nous défendent contre les infections, ne vont plus fonctionner normalement. Donc vous pouvez avoir de la fièvre, avoir une angine ou pour un petit, une otite classique. Il va y avoir ou non des antibiotiques pour la première consultation chez le médecin. Et puis 5 ou 6 jours plus tard, la fièvre ne va pas passer. On va revoir le médecin qui va mettre un premier ou un deuxième antibiotique. Puis la semaine suivante, c'est à nouveau la même chose. Et là, le médecin va se dire non, ce n'est pas possible, il y a quelque chose. Il va y avoir un bilan sanguin et souvent, c'est le bilan sanguin qui va montrer des anomalies. Mais encore une fois, puisque ça n'est pas vraiment une maladie du sang, mais une maladie de la moelle, il va falloir aller faire ce qu'on appelle un myélogramme, c'est-à-dire un examen de quelques gouttes de moelle et c'est ça qui va donner le diagnostic.
Alors, vous avez parlé d'enfants qui vont faire de la température. Du coup, on va un peu affoler les parents qui nous écoutent en disant... Oh là là,
surtout dans le contexte coronavirus.
Dans le contexte, c'est vrai qu'il y a déjà le contexte coronavirus, mais là, on est d'accord, c'est pas parce qu'un enfant a 24-48 heures de fièvre qu'il faut s'alarmer. Est-ce qu'il y a d'autres signes comme ça qui peuvent inquiéter le parent lorsqu'un enfant a justement de la fièvre pour se dire bon, là, c'est peut-être qu'une rhino banale et puis on peut patienter.
Alors, c'est effectivement sur quelques jours et c'est l'association des signes. Effectivement, j'ai le gros rhume, je mouche vert et j'ai de la fièvre.
Bon,
j'ai une rhino, j'ai pas une
leucémie.
Mais bien sûr. Donc, et puis, les parents ont un solide bon sens. Un enfant qui a un rhume, on sait. Un enfant qui a quelque chose de plus grave qu'un rhume, ben on le sait aussi.
Et il faut s'écouter en tant que parent. Ouais.
Bien sûr. Et puis, ça peut faire mal. En tout cas, surtout chez les petits, ça fait mal. Ils ont mal dans les os. Ça se passe dans l'os. Ça fait mal dans les os. C'est typiquement l'enfant qui ne veut plus monter dans la voiture tout seul. L'enfant qui réclamait absolument de monter les escaliers tout seul et qui réclame les bras. Et ça, c'est des choses qui sont... En tout cas, nous qui les voyons finalement... Presque quand le diagnostic est posé, c'est des choses qu'on va réentendre très souvent.
Vous disiez donc l'examen de référence à l'hôpital, une fois qu'ils arrivent chez vous, ces patients-là, c'est le myélogramme. C'est quoi cet examen? On va chercher quoi et comment ça se passe?
Alors on va donc chercher quelques gouttes de moelle. La moelle, c'est finalement comme le sang en un peu plus épais, donc ça s'aspire avec une seringue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer à travers la peau, puis jusqu'à l'os, et on va rentrer dans l'os. Alors je vous rassure, on va... Sinon, sédater, en tout cas tranquilliser les enfants comme les adultes, hein, parce qu'on fait exactement la même chose chez les adultes. Et on va donc aspirer quelques gouttes qu'on va étaler sur une lame. Et c'est le cytologiste au laboratoire qui, en examinant cette lame après ce qu'on appelle une coloration, va nous dire bah oui, il y a des cellules anormales.
Alors, on va passer un petit peu à la prise en charge. Évidemment que ça dépend de la maladie, mais en grosso modo, il y a forcément de la chimiothérapie, c'est ça? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça?
Eh bien, parce que, on l'a dit, les leucémies font partie de la famille des cancers et que globalement, ce qu'on sait bien faire dans les cancers, eh bien, c'est la chimiothérapie. Et parce que souvent, les leucémies sont des maladies qui vont vite avec beaucoup de ce qu'on appelle de cellules dans le cycle, c'est-à-dire des cellules qui se reproduisent, eh bien, ce sont justement ces cellules-là dans le cycle qui sont très sensibles à la chimiothérapie. C'est la raison pour laquelle on va utiliser plusieurs chimiothérapies associées, c'est toujours de la polychimiothérapie et c'est comme ça qu'on va être efficace.
Il y a en dehors de la chimio un autre type de médicament arrivé il y a une vingtaine d'années, le Glivec, un inhibiteur de la tyrosine kinase, vous allez nous expliquer, qui a révolutionné vraiment la prise en charge. On est passé, expliquez-nous, parce que vous m'avez vraiment expliqué en préparant, c'était une révolution. On est passé de quelle situation à quelle situation avec ce médicament?
Alors c'est un médicament qui est quasi exclusivement utilisé dans la leucémie myéloïde chronique, donc essentiellement chez l'adulte, parce que c'est vraiment la population adulte qui est concernée. Alors, ce qui se passe dans cette maladie-là, c'est qu'en fait, il y a deux chromosomes qui se cassent et qui se rejoignent, formant ce qu'on appelle un transcrit de fusion, qu'importe. Enfin, il crée une nouvelle protéine qui est active en permanence, et ce qu'on appelle une tyrosine kinase, qui est une protéine très importante pour faire se multiplier les cellules, comme je le disais tout à l'heure. Et alors, des gens en laboratoire ont été suffisamment intelligents que pour imaginer, en fait, cette nouvelle protéine, elle a une espèce de petite poche et ils ont été créés un bouchon pour mettre dans la poche, empêchant cette activité tyrosine kinase, inhibiteur de tyrosine kinase. Et ça a révolutionné le traitement de la LMC.
La survie.
Parce qu'avant, c'était 6-7 ans d'espérance de vie avec deux médicaments qu'on appelait la racitine et l'interféron, ou alors c'était la greffe de moelle, mais il n'y avait pas du tout, de demi-mesure. Et maintenant, la LMC, c'est une maladie qui se traite quasi exclusivement avec des inhibiteurs de tyrosine kinase, et ça guérit.
Et justement, vous l'avez un petit peu abordé, un des traitements de référence, c'est la greffe de moelle, elle est parfois indispensable?
Oui. Ah oui. Malheureusement, malheureusement, je suis greffeur, donc je ne devrais pas dire malheureusement, mais c'est un traitement extraordinairement violent. On ne l'indique que quand il faut, mais effectivement, il y a encore un certain nombre de leucémies où le traitement doit passer par la greffe de moelle. Mais la greffe est une étape du traitement. Avant ça, il y aura toujours eu plusieurs mois de chimiothérapie au préalable.
Et alors, grâce à tous les traitements qu'on vient de décrire, on en est où aujourd'hui en termes de guérison dans les leucémies? C'est-à-dire qu'on l'a dit, il y a eu beaucoup de progrès. On arrive à guérir quelle part de malades si on mélange les enfants et les adultes?
Alors, si on mélange les deux populations, c'est probablement moins de 50%. Les enfants sont, je n'ose pas dire très favorisés, parce que quand on est enfant et qu'on a une leucémie, évidemment qu'on n'est pas favorisé, mais le résultat, les résultats chez les enfants sont bien meilleurs que chez les adultes. Ce qu'on appelle, nous, la leucémie la plus facile, c'est la leucémie aiguë lymphoblastique B de la petite fille de 5 ans. Bon, très bien. Ça, c'est jusqu'à 95% de guérison après 2 ans de traitement de chimiothérapie, c'est quand même pas tout
quand
à fait
même,
rien.
Hein, ouais.
Après ça, on a les leucémies aiguës myéloïdes de l'enfant et de l'adolescent. On doit être autour d'à peu près 2/3 des enfants qui vont aller bien. Et puis quand on se tourne vers la population adulte, on est en dessous des 50% de survie. Et plus on va aller loin dans les décades, plus on va s'adresser à des adultes âgés, moins les résultats vont être
Donc ça fait quelques milliers de patients quand même pour qui c'est encore compliqué
bien
aujourd'hui.
Bien sûr.
Bon, professeur Dalle, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est le professeur Jean-Hugues Dalle. Je rappelle que vous êtes professeur de pédiatrie à l'Université de Paris et vous êtes également le président du conseil scientifique de la Société française de lutte contre les cancers et leucémies de l'enfant et de l'adolescent. Alors à présent, pour bien comprendre ce que chacun d'entre nous peut faire pour contribuer au combat contre les leucémies en France, on va écouter le cri du cœur de Stéphanie Fugain.
Malheureusement, il y a un médicament qui ne s'invente pas, qui ne se fabrique pas et qui est indispensable au quotidien aux patients, c'est le sang, les plaquettes, la moelle osseuse. Quand un malade est traité par chimiothérapie, la chimiothérapie ou tous les traitements qui sont assez violents vont détruire les défenses immunitaires de tous ces patients. Et si nous ne sommes pas là, nous, personnes bien portantes, donneurs, les donneurs en puissance, eh bien, le malade n'a absolument aucune chance de poursuivre son traitement. Je sais que pendant cette période difficile du Covid, les gens ont eu peur. Ils se sont dit, on ne va pas se déplacer d'abord, puisque c'est interdit. Ensuite, je ne vais pas aller me faire piquer parce qu'il y a des risques. Moi, je tiens à vous rassurer, non, vous ne prenez aucun risque. Le seul risque que vous puissiez prendre, c'est celui de permettre à un malade, à un enfant, à un adulte, de pouvoir continuer à se battre. Vous comprenez pourquoi il est urgent de se connecter, d'entendre que nous avons tous toujours un petit peu de temps pour aller partager ce que nous avons de meilleur, nos cellules, la vie qui coule dans nos veines.
C'était Stéphanie Fugain en micro de Benjamin Lévesque. Et donc pour plus d'informations ou même pour faire un don, n'hésitez pas, ça se passe sur don.laurettefugain.org. Alors professeur Dalle, justement, vous l'importance du sang, des plaquettes, du don de moelle, vous le voyez, vous le mesurez tous les jours. Sans ces dons, qu'est-ce qui arrive concrètement à ces patients?
Mais comme l'a dit Stéphanie Fugain, que je rembrasse au passage, les produits sanguins, pour nous, sont essentiels. Ça fait partie du traitement de ces patients. Et si on n'a plus de produits sanguins disponibles, ces patients vont aller mal, voire vont mourir à la fois de la combinaison de la maladie et du traitement. Parce que nos traitements, nos chimiothérapies, nos greffes de moelle aggravent les choses temporairement. Et pendant qu'on a aggravé les choses, il faut absolument qu'on supplée à ce que ne produit plus le patient ces produits dérivés du sang qui sont indispensables.
Alors on va s'arrêter un tout petit peu sur le don de moelle parce que c'est un peu moins connu du grand public. On peut tous donner cette moelle. Comment ça se passe? Et on peut rassurer les gens, on ne met pas sa vie en danger lorsqu'on donne sa moelle. C'est pas comme si on donnait un rein, parce qu'on a l'impression que c'est un truc qui disparaît.
Même donner un rein d'ailleurs.
Oui, mais on a le sentiment de perdre quelque chose quand on donne une moelle mais, ou un rein. Mais on fait gagner quelque chose évidemment.
Alors non, évidemment, on ne met pas sa vie en danger. D'abord, il y a un grand principe, c'est que le jour du don, et toute l'enquête qui va précéder le jour du don, la personne la plus importante, c'est le donneur. Il n'est absolument pas question, au nom de soigner un malade, de mettre quelqu'un en danger et de le rendre malade lui-même. Sinon, pour la société, pour les familles, enfin c'est débile. Un malade contre un autre malade, ça n'a aucun sens. Donc le donneur est ce qu'on a de plus précieux, et évidemment, on va faire très très attention à ne pas le mettre en danger. Comment ça se passe? Ça va être soit ce que nous on appelle un prélèvement de moelle, au bloc opératoire sous anesthésie générale. Mais finalement, on fait surtout ça en pédiatrie, on ne fait plus beaucoup pour les adultes, même si ça peut encore arriver. Et sinon, ça va être ce qu'on appelle un prélèvement de cellules souches périphériques, où on va administrer un médicament pendant quelques jours comme un starter, un booster pour faire gonfler la moelle du donneur et faire en sorte qu'il y ait plein de cellules qui sortent dans le sang. Et à ce moment-là, par une prise de sang avec une machine qui va sélectionner ce qu'elle veut.
On peut le temps de regarder quelques séries, quoi.
Exactement, c'est ça, absolument. Quelques épisodes et hop, c'est fait.
Voilà, et tout le monde peut
s'inscrire.
Bien sûr,
on n'est pas en danger.
Parce qu'en plus, il y a aussi de fortes chances pour qu'on soit, même si on a envie de donner, évidemment, et que ça serve à quelque chose. Mais vous, vous êtes inscrit depuis l'âge de 18 ans, vous m'avez confié, et vous n'avez jamais donné en réalité.
Je n'ai jamais donné. J'ai été une fois pré-appelé, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Mais non, parce qu'en fait, on a une chance sur un million d'être compatible avec quelqu'un d'autre au niveau de ce qu'on appelle lâcher là. Et donc, c'est un geste extrêmement important. Il faut s'inscrire sur donneurdemoelle.fr, mais finalement, on va extraordinairement rarement donner. Et surtout, c'est jamais un don en urgence, c'est jamais du jour au lendemain. On a toujours le temps de s'organiser.
Et avec la pandémie, est-ce que les stocks, si on peut appeler ça comme ça, sont à un niveau satisfaisant ou ça n'a peut-être pas dû arranger les choses, ce qui se passe ?
Alors, les stocks de sang, je pense que vous avez entendu les appels de l'établissement français du sang.
C'est tendu.
C'est tendu. Mmh. Il y a vraiment une situation de tension, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'en France, un seul patient ait manqué de produits sanguins au cours de cette année 2020. Il y a toujours eu des solutions. C'est tendu sur les stocks de sang. C'est tendu différemment à propos des grèves de moelle. D'abord, il a fallu réduire un peu les choses. Toute l'activité médicale a été réduite, y compris les grèves de moelle. Et puis, l'accessibilité aux donneurs est quand même beaucoup plus compliquée. On a des donneurs dans le monde entier. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à l'heure actuelle de faire circuler les dons, parce que ce sont les dons qui circulent, pas les donneurs. Mais malgré tout, c'est difficile.
Professeur, on va passer à l'avenir. C'est quoi les pistes de recherche et les enjeux pour faire encore, pour améliorer encore les choses dans les années à venir? Je crois que les CAR-T-cells, on en a déjà parlé dans cette émission, vous allez nous réexpliquer ce que c'est, parce qu'on a parlé de différents traitements, mais il y a aussi celui-là qui est arrivé. C'est une forme d'immunothérapie, vous allez nous expliquer. C'est encore, on est aux prémices, au balbutiement de cette technique, mais c'est l'avenir. Hein.
C'est une des pistes d'avenir. L'immunothérapie, de façon générale, fait partie de l'avenir du traitement de tous les cancers, et singulièrement l'immunothérapie, l'immunité étant dans le sang et dans la moelle, c'est une bonne façon d'appréhender les choses. Alors on a des médicaments d'immunothérapie, qu'on appelle des anticorps monoclonaux par exemple, des anticorps conjugués, et puis il y a ces fameux CAR-T-cells, où là ce qui est très intéressant, c'est qu'on va chercher des cellules, le plus souvent les cellules du patient lui-même. On va les emmener dans un laboratoire spécialisé qui va faire de la thérapie génique. On va modifier en introduisant un gène dans ces cellules. Alors, on s'intéresse aux lymphocytes T et on va armer ces lymphocytes T d'un pistolet, finalement, qui va spécifiquement aller viser les cellules
quand
de la leucémie.
Quand on va les réinjecter au patient.
Et en plus, avec le jeu, entre guillemets, de l'immunité, ces cellules vont s'accroître dans l'organisme, vont se multiplier et être de plus en plus efficaces. Alors, parfois, elles sont trop efficaces. Il peut y avoir quelques jours particulièrement difficile pour les patients et pour l'équipe médicale.
Alors, pour l'instant, c'est encore un traitement qui reste un peu marginal, peu utilisé. Est-ce que vous pensez que ça va de plus en plus être utilisé, même s'il faut le dire, c'est un traitement qui coûte très très cher?
Alors, c'est un traitement extraordinairement onéreux. Effectivement, on en est au balbutiement. Pour le moment, on ne sait s'en servir essentiellement que dans la leucémie aiguë lymphoblastique B ou dans le lymphome lymphoblastique
B. Dans lesquels on a de bons résultats.
C'est une nouvelle révolution, très clairement. Une révolution qui pose des problèmes économiques, vous l'avez dit. Pour les autres maladies, eh bien, ça arrive dans une maladie qu'on appelle le myélome, et puis on espère que ça va arriver pour les leucémies aiguës lymphoblastiques T, pour les leucémies myéloïdes, mais ce n'est pas encore le cas.
Alors pour terminer, autre enjeu, vous m'avez dit ça en préparant cette émission, mais dans l'avenir, il faudra aussi améliorer la survie des malades sans séquelles. Parce que finalement, avoir une leucémie à 5 ans, s'en sortir, ce n'est pas forcément ensuite la vie, tout roule tranquille. Il peut y avoir des traces vraiment de la maladie.
Absolument, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des chimiothérapies extrêmement efficace mais agressive, et quand on utilise un produit très actif, eh bien, il peut effectivement donner des effets secondaires et parfois des années plus tard. Donc il faut impérativement se faire suivre toute sa vie quand on a été traité, quel que soit l'âge auquel on a été traité pour une leucémie. Ça nécessite tous les quelques années d'aller faire un check-up et de s'assurer que tout va bien.
Et
s'il y a des choses, rectifier les choses.
Très bien, merci beaucoup professeur Dalle d'avoir été avec nous pour cet éclairage très intéressant sur les leucémies. Et on va le rappeler une dernière fois, si vous souhaitez plus d'infos, vous mobiliser, faire un don, n'hésitez pas sur don.laurettefuguin.org. Merci encore professeur.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore cet après-midi. Alors, il est temps de passer au bobo du quotidien. Et aujourd'hui, pour lancer cette séquence, on va commencer par écouter la question que nous a laissée Muriel. C'est parti.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors j'avais une petite question par rapport aux pieds secs. Il se trouve que j'ai régulièrement des crevasses, et notamment sur les talons. Et j'aurais voulu savoir si ça arrivait toujours aux mêmes personnes ou s'il y avait des facteurs qui faisaient qu'on en avait plus que d'autres. Et savoir aussi comment ça se traitait, si des simples crèmes suffisent ou est-ce qu'il faut consulter, qui on doit consulter, un podologue ou un spécialiste. Voilà, je m'interrogeais là-dessus. Merci pour votre réponse et bonne journée.
Bon, Jimmy, les pieds secs, ça vous connaît, donc je me suis dit qu'on s'allait vous débrouiller avec ça. Est-ce que c'est un problème fréquent, l'hypersécheresse, comme elle le décrit quand même Muriel, au niveau des pieds? Moi, je pensais que c'était plutôt un souci estival, mais semble-t-il, bah, écoutez, on est en novembre et puis il y a des personnes qui ont les pieds secs.
Donc, exactement, Mélanie. La peau au niveau des pieds, c'est comme celle des mains. Elle peut subir toutes sortes d'agressions, le chaud, le froid, les frottements, et ça durant toute l'année. Il suffit d'interroger les spécialistes des pieds, les podologues, et ils le disent, des pieds secs, c'est un motif de consultation très fréquent. Et ça, qu'on soit en été, en automne ou en hiver.
D'accord. Alors, il y a pieds secs et pieds secs. Après, ça ressemble à quoi quand on a vraiment une hyper sécheresse cutanée à ce niveau-là? Parce que là, elle a parlé de talons fendillés. Mais bon, ça peut aller plus loin, je crois.
Bah, ça va jusqu'au désert de Gobi. Sécheresse absolue, ça donne une peau, vous savez, Mélanie, rugueuse, dure, avec des aspects de terre séchée. Et parfois même une petite coloration, plus ou moins jaunâtre, sous le dessous du pied, au niveau du talon et de l'avant-pied. Les fissures sont aussi une conséquence de cette sécheresse cutanée qui peut engendrer d'importantes douleurs, notamment au niveau des talons.
Et ça peut aller même jusqu'à la crevasse, parce que vous avez décrit la fissure, mais je crois que la crevasse, et là, j'imagine que c'est encore plus douloureux parce que c'est profond. Hein,
rien
ne
vous échappe, Mélanie, c'est le stade ultime d'une sécheresse cutanée qui est non traitée. Et puis avec les pieds secs, ça peut aussi donner des callosités, des épaississements au niveau de l'épiderme, particulièrement douloureux. Alors, on appelle ça des kératoses, vous connaissez forcément ce nom. Ce sont les corps aux pieds, les durillons, l'œil de Perdrix, l'oignon.
Ah oui, et bien,
en fonction de la localisation, on a des noms plus ou moins sympas.
D'accord. Alors, s'il vous plaît, Jimmy, on connaît leurs noms, mais on veut surtout ne pas avoir tout ça. Là, l'œil de Perdrix, comme vous avez dit, je crois qu'on dit Perdri. Pas Perdrix, mais.
C'est comme Jimmy Hendrix. Moi, j'ai dit le X. D'accord. Donc, voilà, laissez-moi tranquille.
Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord pour les retirer ces petites callosités, on va dire, quand c'est pas trop grave? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, en tout cas?
Alors, je ne sais pas que je travaille avec l'acolyte de Bernard Pivot, mais toujours est-il que je ne vais rien vous apprendre, mais
L'œil de Perdrix.
Le secret, c'est l'hydratation. Dans l'idéal, il faudrait utiliser une crème spéciale pour les pieds secs tous les jours. Ça va déjà hydrater en surface les cellules mortes et de ce fait diminuer l'épaisseur de la couche de cornée au niveau du talon, par exemple. Et donc, il faut bien masser pour la faire pénétrer, cette crème. Et pourquoi pas utiliser, vous savez, une pierre ponce, une ou deux fois maximum par semaine, mais le mieux quand même pour en finir, c'est de consulter un podologue.
Évidemment, un podologue qui adaptera donc bien sûr le traitement en fonction de votre cas précis et qui vous fera les soins à son cabinet ou même à domicile parfois. Jimmy, pour terminer, est-ce que vous n'avez pas des petits conseils maison, des petits conseils de famille peut-être? Non, je plaisante. Pour prévenir ce problème, plus sérieusement.
Oui, les podologues de l'Union française pour la santé du pied conseillent de préférer les douches au bain, en tout cas de prendre des bains de moins de 10 minutes à l'eau tiède et pas trop chaude. Ils conseillent aussi d'éviter d'agresser vos pieds avec des savons trop décapants, comme le savon de Marseille.
Mieux vous l'utilisez pour tout, je crois.
Hein. Oui, donc, les mains, les pieds, le visage, tout y passe.
Mais c'est pas une bonne idée, vous allez avoir des pieds secs, Jimmy, vous le dites vous-même. Alors,
je
stop.
Sais, ouais. Ouais, ma femme me le dit toujours, elle n'en peut plus. Sans parler de l'odeur, mais toujours est-il qu'il vaut mieux utiliser un savon sur gras ou sans savon, qui sera forcément plus doux sous la peau, notamment pour les pieds qui seront desséchés. Et puis pour les accros au bain, attention au bain moussant, qui peuvent contribuer justement à aggraver les problèmes de pieds, car ils ne sont pas forcément adaptés. Et enfin, je vous l'ai dit, la crème
c'est
et toujours
Benjamin
la crème.
C'est Benjamin Lavec qui vous a parlé de ça, je crois.
Exactement.
Donc, spécialiste
il
beauté.
Est fan des
vous a dit la crème,
notre
Jimmy.
Spécialiste beauté, plutôt le soir, après la douche, sans oublier de bien se sécher les pieds entre les orteils, on a tendance à l'oublier, une bonne couche de crème avant de dormir, on enfile des chaussettes en coton pour ne pas transpirer, et puis voilà, on aura des pieds de bébé, ou en tout cas, on aura limité la casse.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions pour nos petits petons. Merci beaucoup.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui est prêt à lire tout de suite cette question qui est adressée aujourd'hui donc à Catherine Blanc qui est avec nous en studio. Jimmy, je sais que vous adorez la lecture, alors allez-y.
Oui, je crois que vous l'avez choisi, non pas pour moi, mais bon, je crois que votre choix n'est pas anodin. Alors, je vous lis la question de Maëlys. J'ai entendu dire qu'on pouvait être allergique au sperme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si fréquent que ça?
C'est un peu médical, alors j'ai pensé à vous.
Oui, ça doit être vachement handicapant, dit-elle. Alors Catherine, dans ma courte carrière de docteur, je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre d'être allergique au sperme. C'est peut-être parce qu'on ne mange pas, en fait, tout simplement, non?
Alors...
non, mais je ne sais pas.
Ça commence sur des chapeaux de roue. Alors, c'est ça. Alors, en fait, alors, moi, je ne me tarderai pas, évidemment, sur la partie physiologique. Et qui plus est, puisque vous-même, dans votre carrière, vous n'en avez jamais entendu parler.
Ça n'existe pas.
Voilà. Bon. Alors, en fait, c'est répertorié, mais de façon extrêmement rare. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, comme on trouve par exemple des gens qui sont allergiques à leur sueur. Donc il y a des phénomènes comme ça qui sont assez intéressants, sur lesquels évidemment la médecine se penche. Mais comme c'est un tout petit ratio de personnes, c'est assez difficile de voir et d'ailleurs de poser les bons diagnostics.
Et justement, comment est-ce qu'on sait si on est allergique au sperme? Est-ce qu'il faut faire un test cutané de réaction? Parce que la sueur...
Moi, je vous laisse, je suis partie.
je
reviens à la fin de la chronique.
On fait un test cutané pour savoir si on est allergique au sperme?
Absolument aucune idée, ça. Je vous laisse voir avec vos confrères.
Vous avez déjà fait ce genre de test, Jimmy?
Non, jamais.
Ce qui est très intéressant, c'est surtout ce que les médecins peuvent
en dire.
Moi,
je crois qu'on peut être allergique à tout. Je ne suis pas médecin, mais j'imagine qu'on peut y avoir des réactions immunitaires. J'imagine à tout.
Vous avez
C'est un système, en tout cas, immunitaire qui s'agite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il concerne d'abord très peu de gens. Et principalement, et c'est là que ça intéresse la psy que je suis, ce sont des jeunes femmes dans le début de leur vie sexuelle. Donc ça raconte, c'est marrant parce que hier nous parlions de tous les problèmes d'infertilité. Eh bien là, c'est le pendant de notre chronique d'hier d'une certaine manière, puisque ça raconte l'anxiété par rapport à la possibilité d'une fertilité. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a une sorte d'allergie à l'autre dans ce qu'il pourrait produire en soi. Et d'ailleurs, ce que...
Mais c'est une allergie avec des boutons, des irritations...
Non, c'est des douleurs. C'est pour ça d'ailleurs que le symptôme...
Ça pique, ça brûle peut-être,
voilà. C'est dans les quelques minutes, les cinq minutes qui suivent le rapport. Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est aussi une façon de témoigner de ce qui vient de se jouer, comme si le sperme était un acide. D'ailleurs, on retrouve la même chose chez certains hommes avec la lubrification, qui vont tout de suite se laver les mains, par exemple, quand ils touchent le sexe d'une femme qui est lubrifiée, comme si leurs mains pouvaient brûler. Oui. Et d'ailleurs, certains en témoignent en disant « ça brûle, ça pique, ça me fait des allergies ». Donc ça raconte plutôt une histoire psychique. Oui. Il n'empêche qu'il y a une résonance dans le corps.
Donc ça veut dire que si c'est un problème d'ordre psychologique...
C'est des allergies fantômes un peu.
Oui, alors est-ce que du coup, pas la peine de proposer une désensibilisation, de s'exposer à des petites doses?
Non, vous n'allez pas essayer de voir la jeune fille en question de s'exposer un peu plus.
Non, on parle d'allergie,
mais vraiment, vous êtes... Non, vous êtes déchaîné aujourd'hui.
Il est coquin, je crois.
Non, on va pas lui proposer plus de rapports sexuels pour que ça passe, pas plus qu'on va lui proposer d'en absorber non plus sur la durée du temps.
Oubliez
tout ça. Non, mais c'est vous qui venez de me faire dire des bêtises. Non, rien de tout ça.
Du coup, c'est là qu'on travaille sur le plan psychologique. Vous l'avez dit, des jeunes femmes dans le début de leur relation sexuelle.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire qu'il y a une angoisse.
C'est principalement lié à l'angoisse que représente le sperme. Et donc, du coup, évidemment, avec une idée aussi de confusion, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la peur de la fertilité potentielle, donc la peur d'être transformée dans son corps. Vous pensez bien, il faut déjà faire l'amour. Et faire l'amour va déjà nous transformer, nous faire passer de petite fille à femme. Et là, en plus, ça pourrait être amer. Donc, vous imaginez que ça peut faire effectivement très peur.
Ouais.
Mais à cela, il y a aussi autre chose.
Il suffit de mettre un préservatif et l'allergie est réglée, non?
Oui, alors voilà.
J'ai des solutions hyper pratiques, c'est ce que je me dis.
Oui, tout à fait, mais d'une certaine manière, mais ça permet justement à certaines d'avoir besoin. D'ailleurs, pour certaines, le fait qu'il y ait un préservatif, c'est au-delà d'être préservé du sperme ou préservé de toute autre maladie sexuelle.
L'allergie au latex, ça existe par contre, Jimmy, hein, je ne me trompe pas.
Ouais.
Mais en tout cas, ça leur permet d'avoir le sentiment d'être un peu en protection de l'autre. Donc la deuxième confusion possible, c'est-à-dire la peur de la fécondation, mais il y a la deuxième, qui est la confusion entre fécondation et contamination. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce qu'on retrouve très souvent chez les femmes qui, quand elles sont enceintes, développent, bien sûr, sous l'effet des hormones qui se mettent en place, mais des fois, développent une somme de symptômes comme si elles étaient tombées malades. Or, être enceinte n'est pas une maladie, bien évidemment, mais il y a une idée dans notre psychisme, tout d'un coup, que quelque chose est venu nous transformer et seule expérience que nous ayons jusqu'alors, c'est la maladie. Donc, il y a ces deux problématiques qui peuvent entraîner en effet ce genre de petite pathologie, mais de toute évidence qui ne reste pas sur la durée de la vie sexuelle de la personne en question.
Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Oh regardez, j'ai fait apparaître Stéphane Bern comme par magie avec ma baguette magique. Ding.
Bah, faut dire, Mathieu, c'est le thème du jour, d'Historiquement Vôtre.
Évidemment.
Ah, oui, avec la compagnie du magicien Éric Antoine, on va parler des grands magiciens de l'histoire, Jean-Eugène Robert-Houdin, Harry Houdini et vous, un magicien plus contemporain, non ?
Plus contemporain, il a même réussi à pécho Claudia Schiffer. C'est évidemment David Copperfield, le plus grand de tous.
Et vous êtes deux magiciens magnifiques.
On est deux magnifiques magiciens.
Voilà, c'est presque ça.
Quelque chose comme ça.
Voilà, très bien. Allez, on sera à l'écoute, bien évidemment. Et vous aussi, restez sur Europe 1.